dans cette série du Dieu qui veut demeurer avec nous. Et dans cette série, on a appris que qui est ce Dieu qui veut demeurer avec nous? Qui est ce Dieu qui veut demeurer avec son peuple, le peuple d'Israël dans le livre de l'Exode? Et aussi, qui est ce peuple? Qui est ce peuple qui est libéré de l'esclavage? La semaine dernière, on a vu comment Dieu a pourvu à la délivrance du peuple d'Israël à travers le dixième fléau qui est venu s'abattre sur l'Égypte, la mort des premiers-nés, et à travers aussi le repas de la Pâque. Et maintenant, on va retrouver le peuple d'Israël ce matin, qui est devenu un peuple pèlerin, un peuple qui est en marche, un peuple qui est en chemin, à travers le désert, il se rend vers la terre promise. Il est guidé, protégé par son Dieu. C'est ça qu'on va voir ce matin, un peuple en chemin. Alors, qu'est-ce que l'histoire d'un peuple en chemin? Ce peuple choisi, le peuple d'Israël, libéré, délivré par le sang d'un agneau le soir de la Pâque, guidé et protégé par Dieu, qu'est-ce que ce chemin a à nous dire à nous, croyants du 21e siècle? Ou si vous n'êtes pas croyant, qu'est-ce que ce texte a à vous dire à propos du Dieu qui guide son peuple? Un Dieu qui mettrait son peuple en marche, qui demeurerait au milieu de lui? Alors il y a un mois, un peu plus d'un mois, dans une formation que certains d'entre nous avons fait ici à l'Institut biblique de Nogent, on a eu un devoir qui était faire son chemin de vie. Alors je vous donne le concept qui est assez simple. Relire sa vie avec la perspective de voir comment Dieu a agi à travers les situations, à travers les personnes, à travers les événements de notre enfance jusqu'à maintenant. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez penser à votre vie, penser à votre chemin de vie. Peut-être dans votre chemin de vie, si vous avez l'impression d'avoir vécu des tours et des détours, alors l'histoire du peuple d'Israël en marche dans le désert a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Si vous avez l'impression d'avoir vécu la libération, la délivrance à un moment donné de votre vie, alors l'histoire du peuple d'Israël en marche dans le désert a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Si vous avez vécu la peur, la crainte, le doute, alors l'histoire du peuple d'Israël en marche dans le désert a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Et si vous avez vécu le regret, voire la nostalgie d'une vie d'avant, alors l'histoire du peuple d'Israël en marche dans le désert a beaucoup de choses à vous dire ce matin. On n'a pas vécu l'Exode, en tout cas cet Exode-là. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est de voir à quel point chapitres 13 à 18 nous apprennent des choses, bien sûr sur le peuple d'Israël et sur comment Dieu agit avec eux, mais aussi sur nous aujourd'hui et comment Dieu agit avec nous. Israël, après sa sortie d'Égypte, est devenu un peuple en chemin, un peuple en pèlerinage, en marche, avec le Dieu qui veut demeurer au milieu de lui. En chemin avec le Dieu qui veut demeurer au milieu de nous. C'est le titre de la prédication que je vous propose ce matin. Alors on va cheminer ensemble, on va regarder le champ lexical du chemin et de la marche, on va cheminer ensemble dans 4 ou 5 chapitres. Donc j'aimerais vous inviter à avoir sous les yeux le texte biblique, que ce soit papier ou smartphone. Si vous voulez papier, Nat a un stock de Bible qu'il peut vous distribuer si vous levez la main maintenant, mais c'est bien d'avoir le texte biblique sous les yeux. Pourquoi? Pour votre confort d'écoute, parce qu'on va se balader dans 4 ou 5 chapitres et je ne vais pas projeter chaque verset que je vais lire, donc je vous invite à avoir, un peu comme une timeline, votre Bible sous les yeux. Alors, on retrouve le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Vous pouvez vous rendre dans le livre de l'Exode, vous pouvez vous rendre au chapitre 12, la fin du chapitre 12 au verset 37. Souvenez-vous, on retrouve le peuple, les Israélites, partir de Ramsès, verset 36, en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Le peuple est sorti d'Égypte. Et la première chose que Dieu va faire, la première chose que Dieu fait faire à son peuple, chapitre 13, verset 18, cette première chose qui nous semble complètement improbable, Dieu, verset 18, il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Chapitre 13, verset 18, Dieu leur fait faire un détour. Alors pourquoi un détour ? Et là, je vous propose de garder un petit suspense. On va le mettre un petit peu de côté, ce détour, et on va en reparler tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que malgré le fait que Dieu leur fasse faire un détour, Dieu guide son peuple. Deux versets plus loin, verset 20, Dieu guide son peuple par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Les Israélites partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Verset 21, l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Le peuple d'Israël ici fait l'expérience de la direction divine. Sous la forme de la colonne de nuée ou de la colonne de feu la nuit, du coup que ce soit la nuit ou que ce soit le jour, Dieu conduit son peuple sans interruption. Le peuple d'Israël est en marche, j'ai dit tout à l'heure un peuple qui est devenu un peuple pèlerin, en pèlerinage, en chemin, en marche avec son Dieu. Et son Dieu le guide, il est à la tête. Alors premier problème, malheureusement, pour le peuple d'Israël, son histoire avec l'Égypte n'est pas finie. Et c'est un peu comme certains films. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des Marvel, donc ces films de super-héros. Quand on allait, j'ai pas été au cinéma depuis un petit temps, mais en tout cas quand j'allais voir des Marvel au cinéma, le film est fini, on regarde le générique, mais on sait qu'il y a une scène qui va arriver après le générique pour nous dire « Eh non, le monde de Marvel n'est pas fini !» Il y aura un nouveau film qui va sortir encore. Et bien c'est un petit peu la même chose ici pour le peuple d'Israël. Les Israélites sont en plein générique de fin. Pour eux, c'est fini. Pour eux, la question de Pharaon, elle est réglée. Ils continuent leur chemin, ils sont guidés par Dieu. Ils se rendent à Pi-Hahiroth. Alors pourquoi je vous l'ai mis en vert sur la map ? Parce que tous les spécialistes de la question ne sont pas d'accord sur où se trouvait Pi-Hahiroth. En fonction aussi de l'endroit où on définit où est la mer des roseaux. Est-ce que c'est la mer Rouge, traditionnellement ? On parle de la mer Rouge, ou est-ce que c'est plutôt un lac, comme le lac Menzaleh ? Pour la suite de la carte, j'ai choisi une option, mais les spécialistes ne sont pas tranchés, et je ne vais pas trancher ce matin. J'ai juste choisi une option pour pouvoir nous faire avancer sur la carte. Donc les Israélites, on les reprend en plein générique de fin. Ils se pensent délivrés de l'Égypte, mais voilà, encore une fois, Pharaon ne tient pas sa promesse. Chapitre 14, vous pouvez avancer un petit peu, chapitre 14, les versets 5 à 6. On va informer le Pharaon, que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là ? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Pharaon lance ses armées à la poursuite des Israélites. Et encore un tout petit peu plus loin, au verset 10, le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens. Lancés à leur poursuite, ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Les Israélites sont maintenant assaillis de doute et de désespoir. Eux qui ont quitté l'Égypte, qui sont guidés par une colonne de feu maintenant, sont remplis de doute, de crainte et de désespoir. Ils font face à une armée puissante, et le seul désir qu'ils ont face à cette armée puissante, c'est quoi ? Retourner en esclavage en Égypte. Versets 11 et 12, toujours du chapitre 14. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Et là, on peut se dire que la mémoire du peuple d'Israël, elle est un petit peu courte. Après avoir appelé l'Éternel au secours au début du livre d'Exode, après avoir vu les prodiges, après avoir vu les fléaux s'abattre sur l'Égypte, envoyés par l'Éternel, après avoir vécu la délivrance, après le repas de la Pâque, et même après avoir passé plusieurs jours guidés par leur Dieu, par une colonne de nuée et une colonne de feu, le peuple est désespéré. Le peuple d'Israël, il est bloqué entre la mer devant, l'armée égyptienne derrière. Et du coup, il se retrouve face à la perspective de la mort. Il voit une seule solution. Comme s'il disait, je suis prêt à retourner en Égypte. La seule solution pour moi, c'est l'Égypte. La seule solution pour moi, c'est de retourner dans la condition d'esclave. Le peuple ici voit plus d'issue. Alors lui qui est appelé à être un peuple en marche, un peuple guidé par son Dieu, on pourrait dire que c'est un peu un peuple en marche arrière. Un peuple qui veut retourner à l'esclavage. Et ça pourrait être la fin de l'histoire ici. Et je pense qu'on peut même dire que ça devrait être la fin de l'histoire, à vue humaine. Mais Dieu, une fois de plus, va intervenir. Après avoir manifesté sa supériorité sur les dieux de l'Égypte, comme on a vu dans les 13 premiers chapitres, après avoir manifesté sa supériorité sur Pharaon, maintenant il va manifester sa supériorité sur l'armée égyptienne. Dieu va guider son peuple, combattre pour lui et le délivrer une fois pour toutes de l'armée égyptienne. Et il va faire ça dans cet épisode de la mer des roseaux, bien connu, chapitre qu'on lit à travers tout le chapitre 14. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel ouvre la mer en deux, propose une solution de fuite à son peuple, et par la même occasion, décime l'armée égyptienne. Verset 29 du chapitre 14, si vous avez toujours votre Bible sous les yeux, verset 29 du chapitre 14. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Ce jour va faire date dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Au chapitre 15, on a même un hymne de victoire chanté par Moïse et par le peuple qui rappelle ce que l'Éternel a fait contre l'armée égyptienne. C'est un jour glorieux. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Ou je pourrais dire, qu'est-ce qui va encore se passer? À peine quelques jours après, le peuple va replonger dans la plainte, la nostalgie de l'esclavage en Égypte. Le peuple est toujours guidé par Dieu, ils prennent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche, ils arrivent à Mara. M-A-R-A, pas M-A-R-A-T comme mon autre ami. Surtout que vous allez voir ce que signifie Mara. C'est mieux que ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc le peuple a très soif. Le problème, c'est que l'eau, elle est amère. D'où le nom qui a été donné à Mara, amertume. Verset 24, chapitre 15. Qu'est-ce que fait le peuple? L'eau est amère, il a soif. Le peuple se plaint. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Et encore une fois, Dieu répond avec grâce. Il indique à Moïse un morceau de bois. Prends ce morceau de bois, jette-le dans l'eau. Et le miracle, l'eau devient potable. On pourrait se dire, est-ce que le peuple d'Israël ici a compris ce que Dieu veut lui enseigner? Mais Israël ne comprend toujours pas. Et après s'être arrêté un court instant à Élim, toute la communauté du peuple d'Israël commence à voyager à travers un désert, le désert de Sin. Et Et que fait le peuple? Il se plaint. De nouveau, il se plaint. Chapitre 16, verset 3. Là, on avance un petit peu. Du coup, chapitre 16, le verset 3, il leur dit « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Et là, je ne sais pas pour vous, mais si on se replonge un peu dans les 13 premiers chapitres du livre de l'Exode, on se dit on n'a pas vu la même chose, nous et le peuple d'Israël, sur ce qui se passait en Égypte. Il ne me semble pas que le peuple d'Israël trouvait sa condition exceptionnelle dans l'esclavage. On arrive au point où en fait le peuple idéalise l'Égypte. Oh, c'était si bien en Égypte. Ils avaient même donné l'ordre de tuer nos premiers-nés. Qu'est-ce que c'était bien ? Le peuple se plaint. Et comme un refrain, encore une fois, Dieu, dans sa grâce, pourvoit. Il pourvoit aux besoins alimentaires de son peuple par la manne, on l'a chanté tout à l'heure. Il pourvoit aux besoins alimentaires de son peuple et on va revenir un petit peu plus tard sur la manne. Mais on va continuer notre périple parce qu'il n'est pas encore terminé. Le périple n'est pas terminé. Le peuple d'Israël sort du désert de Sin et il se rend à Réphidim. Le peuple de nouveau a soif. Qu'est-ce que le peuple d'Israël fait? Il se plaint. Chapitre 17, verset 3. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» De nouveau, le peuple regrette l'Égypte. Mais toujours le même refrain. Dieu, dans sa grâce, par l'intermédiaire de Moïse et d'un rocher, va faire jaillir de l'eau. Je pense qu'à travers tout ce périple que vous voyez sur la carte, on peut dire que finalement, peu importe ce que Dieu aurait fait, le peuple n'a qu'un seul désir, retourner en Égypte. Il a des regrets, la nostalgie du pays d'Égypte le gagne. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de « si tu étais un animal, tu saurais ». Si tu étais une fleur, tu saurais. Je joue pas mal avec mon fils en ce moment. Quand il me dit « si tu étais un animal, tu serais un lion », je le prends bien. Quand il me dit « tu serais un éléphant de mer », je le prends un peu moins bien. Mais bon, bref, c'est un jeu qu'on peut faire avec plein de choses. Si tu étais une fleur, si tu étais une chanson, si tu étais un film. Eh bien, si le peuple d'Israël, entre les chapitres 13 et 18, était une radio, vous avez tous en tête, il serait radio nostalgie. Nostalgique du pays dont il a été libéré. Nostalgique de son bourreau, de son oppresseur. Nostalgique de l'esclavage et de l'asservissement. Comment on peut être nostalgique de ce qu'ils ont vécu? Comment on peut être nostalgique de l'esclavage, de l'oppression? Comment on peut être nostalgique de la maltraitance? Nous, en tant que lecteurs, on ne comprend pas. Mais en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants du 21e siècle, on comprend bien. Parce que finalement, nous, dans notre chemin avec Dieu, en tant que croyants en Jésus-Christ, délivrés de l'esclavage du péché et de la mort, est-ce qu'on n'est pas tenté de retourner à notre vie d'avant? Nostalgique de nos péchés d'avant? Finalement, est-ce que nous aussi, si on était une radio, on ne serait pas radio nostalgie? Parce que, après avoir placé notre foi en Jésus-Christ, lui qui nous libère de l'esclavage, de la mort et du péché, souvent après le baptême, on peut être un peu euphorique, mais le soufflet redescend très très vite. D'abord, on commence par soupirer. Qu'est-ce que c'est que ces circonstances? Pourquoi je dois traverser ça? Pourquoi je travaille ici? On questionne, pourquoi? Et puis on se plaint. Et on se plaint encore. Et on se plaint encore. Éternel, pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi Dieu, tu as choisi que j'habite ici? Pourquoi tu as choisi que je traverse ça? Puis alors on peut idéaliser notre vie d'avant. Qu'est-ce qu'on était bien? Qu'est-ce que la maison que j'avais avant était bien, qu'est-ce que... tout type de circonstances. Et alors finalement, on regrette et on devient nostalgique. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est nostalgique et qu'est-ce qui va nous conduire à la nostalgie dans notre vie chrétienne? Et je crois que c'est un élément clé pour comprendre le passage ici et pour comprendre aussi comment nous, on en arrive à la nostalgie dans la vie chrétienne. Je crois que l'élément de réponse que je voudrais vous proposer, c'est que la conception du chemin n'est pas la même entre Dieu et nous. La conception qu'on a du chemin en tant que croyant, qu'on doit vivre avec Dieu, qui veut demeurer au milieu de nous, elle n'est pas la même que la conception que Dieu se fait de notre chemin. Nous, notre conception, elle est sans épreuve, sans difficulté, sans problème, avec une sécurité financière, une satisfaction sociale, dans nos relations, avec la santé. Mais c'est quoi la conception de Dieu? Et tout à l'heure, je vous disais, je laisse un petit suspense, et je vous propose du coup, c'est ça que si vous avez la Bible devant les yeux, on fait une marche arrière, c'est le bon terme, mais on va jusqu'au chapitre 13, verset 17, et on lit chapitre 13, verset 17. Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. C'était une route compliquée, il y avait des postes qui appartenaient à l'Égypte, et donc ils auraient affronté de nombreux combats. S'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Dieu a libéré son peuple, et sa préoccupation première, c'est qu'il ne retourne pas à l'esclavage. Et là, on voit que la conception de Dieu, elle est bien différente. Il ne conçoit pas un chemin comme direct, rapide, sans embûche, mais comme un lieu où le peuple va apprendre à connaître son Dieu, où le peuple va apprendre à faire confiance à son Dieu, où le peuple va apprendre à dépendre de Dieu. Parce que c'est ça dont il a réellement besoin, pour ne pas retourner à l'esclavage en Égypte. Dieu veut qu'en Jésus-Christ, nous le connaissions, que nous lui fassions confiance et que nous dépendions complètement de lui, parce que c'est le seul moyen de ne pas retourner à l'esclavage du péché et de la mort. Et si maintenant on relit les quatre chapitres qu'on vient de lire, enfin on a lu quelques versets, on les a traversés rapidement, mais si on les reprend sous la perspective de ce que le peuple pouvait comprendre de Dieu, de ce que le peuple pouvait expérimenter de Dieu. Expérimenter du Dieu qui veut demeurer au milieu de lui. Eh bien, verset 4 du chapitre 14, on avance un peu après le verset 17 du chapitre 13, chapitre 14, verset 4. « Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire. » Verset 18, un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 14. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire. Chapitre 15, verset 21. Après, à la fin de l'hymne chanté par Moïse et le peuple, chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Chapitre 16, verset 7. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, à propos de la manne, justement, de cette nourriture qui apparaît sur le sol, ce soir, vous savez, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel. Manifester la gloire de l'Éternel. Comme pour les Israélites, au milieu des plaintes, du regret, de la nostalgie de son peuple, au milieu du désert, Dieu manifeste sa gloire. Pourquoi ? Pour que le peuple puisse continuer à avancer sur le chemin où il le guide. Pour lui faire confiance. Dieu manifeste sa gloire, il le dit, c'est pour ça qu'il va endurcir le cœur du Pharaon, et du coup Pharaon va poursuivre les Égyptiens jusqu'à la mer des roseaux pour manifester sa gloire. Conséquence, quand le peuple sort, il dit, l'auteur nous dit qu'ils ont confiance en l'Éternel pour lui faire confiance, manifester sa gloire pour lui faire confiance. Alors si vous avez quelques, comment je peux le dire, quelques kilomètres au compteur dans la vie chrétienne, ou de l'expérience, voilà. Si vous avez de l'expérience dans la vie chrétienne, j'espère que vous voyez un petit peu de quoi je parle. J'espère que vous êtes encouragés à persévérer, à faire confiance. Si vous êtes tout jeune chrétien, toute jeune chrétienne, peut-être c'est l'occasion de considérer ce matin, est-ce que ma conception du chemin de la vie chrétienne, plutôt la conception que de Dieu, ou une conception humaine, et peut-être de réajuster le curseur. Et si vous n'êtes pas chrétien, et que vous avez toujours pensé que les croyants se convertissent dans l'espérance d'une vie paisible, tranquille, j'espère que ce matin, ça vous invite un peu à la réflexion en voyant le chemin que Dieu propose. Je vous invite à lire cette citation de John Bunyan, qui a écrit un livre qui est assez connu, « Le voyage du pèlerin ». Et voilà la citation qu'on peut trouver dans ce livre. « Cette colline, bien que haute, je désire la gravir. La difficulté ne m'offensera pas, car je perçois que le chemin de la vie se trouve ici. Viens, reprends courage, mon cœur. Ne faiblis pas et ne crains rien. Mieux vaut, bien que difficile, prendre le bon chemin que le mauvais, bien que facile, où la fin est malheureuse. » Mais comment on continue à avancer sur ce chemin alors ? Sur le chemin où Dieu veut demeurer avec nous ? Comment on continue à avancer sur ce chemin en étant guidé par Dieu ? Je crois que la réponse, ce que j'ai commencé à effleurer tout à l'heure, en plaçant toute notre confiance en lui. Nous sommes en chemin avec le Dieu qui veut demeurer avec nous pour lui faire confiance. Et c'est ce que Dieu a enseigné durant tout le pèlerinage des Israélites dans le désert. Il leur a enseigné la confiance. Tim Chester, dans son commentaire sur cette partie de l'Exode, du livre de l'Exode, dit cette phrase. « Le désert, c'est l'école de Dieu. Là, il enseigne la confiance. Le désert, c'est l'école de Dieu. » Et pour finir, on va s'arrêter juste quelques minutes là-dessus. Parce que vous avez encore tous votre Bible sous les yeux, mais on peut se rendre au chapitre 16 maintenant. Puis on bouge beaucoup. Mais... Face aux plaintes du peuple dans le désert, le peuple qui avait faim, Dieu a répondu en envoyant la manne du ciel, le pain du ciel. Au verset 13 du chapitre 16, l'écaille se laisse attraper, le peuple peut manger de la viande. Verset 14, le matin, le peuple trouve sur le sol un mince dépôt granuleux qui va appeler la manne. Pourquoi la manne ? Parce que ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Et c'est la première chose que le peuple a dit quand il a vu ce dépôt granuleux sur le sol qui a le goût de miel. On nous dit que ça a le goût de miel. Et Moïse répond quand le peuple dit qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cette manne ? Moïse répond, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Au milieu du désert, Dieu pourvoit aux besoins alimentaires. Nathanaël nous l'a rappelé dans son passage aux Corinthiens. Dieu pourvoit aux besoins alimentaires de son peuple, mais pas seulement. Dieu pourvoit aux besoins spirituels de son peuple. En lui apprenant à travers la manne, la confiance. Parce que la manne s'accompagne d'une forme d'exigence. Si vous regardez au verset 19, toujours du chapitre 16, qu'est-ce qui est dit ? Que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Parce que si certains voulaient faire un stock de manne pour le lendemain, histoire de dire non quand même, je peux pas compter, je peux compter sur Dieu aujourd'hui, demain on ne sait pas. Donc je prépare mon petit bocal et le lendemain matin, ils étaient remplis de verre, ça sentait pas bon, fallait jeter. Dieu voulait que le peuple ait confiance en lui, jour après jour. Même chose pour le jour du sabbat. La veille, le peuple pouvait prendre deux portions, parce qu'il n'y aurait pas de manne le jour du sabbat. Et pourtant, certains Israélites sortent quand même le matin du jour du sabbat en disant « Quand même, on va vérifier s'il n'en a pas laissé un peu traîner comme ça, hop !» On refait un peu de stock. Dieu voulait enseigner la confiance à son peuple, jour après jour. Faire confiance à Dieu sur le chemin avec lui, jour après jour, c'est une leçon très difficile pour le peuple d'Israël. Faire confiance à Dieu, jour après jour, sur le chemin de la vie chrétienne, c'est une leçon très difficile pour nous aussi. Et pourtant, dans ce texte qu'on vient de lire, cet épisode de la manne, qui est l'ombre d'une réalité bien plus grande en Jésus-Christ, Dieu nous enseigne à avoir confiance en Dieu sur le chemin de la vie chrétienne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et devant ce miracle, qu'est-ce que fait la foule ? Elle se pose la question, est-ce que ce n'est pas un prophète ? Est-ce qu'il est le nouveau Moïse ? Et du coup, les versets 30 et 31 du chapitre 6, le peuple se demande si Jésus ne peut pas les approvisionner en nourriture comme la manne dans le désert, dont on vient de parler. Et Jésus fait une réponse très intéressante. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Le pain qui donne la vie au monde et qui descend du ciel. Et Jésus va plus loin, il va s'identifier à ce pain. Verset 35, et Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jésus lui-même est descendu du ciel. Il comble notre faim, étanche notre soif. Jésus se donne lui-même. Il pourvoit à nos besoins les plus profonds. Et c'est vrai que peut-être que nous, on ne va pas obtenir une réponse à tous nos besoins dans la vie chrétienne. Peut-être qu'on ne va pas obtenir la satisfaction dans tout ce qu'on désire, une carrière professionnelle, des revenus, réputation sociale, vie familiale, santé. Mais Jésus nous donne la vie éternelle. Il pourvoit à notre identité, il pourvoit à notre pardon. Et il nous offre un avenir éternel. Et ça, c'est incomparable. Si on voulait justement le comparer, mais vu que c'est incomparable, on ne va pas le comparer, à l'esclavage du passé, l'esclavage du péché et de la mort. Et comme un petit clin d'œil, je trouve assez amusant de voir l'attitude du peuple d'Israël dans le désert, qui n'est pas dans le désert, mais 1500 ans après ce qu'on a vu du peuple d'Israël qui avance dans le désert, le peuple qui est en face de Jésus, la foule qui est en face de Jésus, son attitude quand Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, c'est moi qui comble votre faim, qui étanche votre soif », ils se plaignent. Verset 41, ils se mirent à murmurer, ils murmurent contre lui, la foule se plaint. Et nous, sur le chemin avec Dieu qui veut demeurer au milieu de nous. Et nous, sur le chemin où Dieu a demeuré au milieu de nous en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on emprunte ? Est-ce qu'on emprunte la nostalgie vers l'esclavage du passé ou est-ce qu'on emprunte le chemin de la confiance ? Un avenir éternel qui nous est promis par Jésus-Christ, lui le pain de vie. Sur le chemin avec Dieu, qui veut demeurer avec nous, au milieu de vies qui peuvent être chahutées par les épreuves. On fait monter souvent nos soupirs, nos plaintes, nos regrets, notre désir de tranquillité, de paix. On aimerait bien retourner en arrière. Et pourtant, Dieu nous invite à la confiance. Et c'est vrai que je pense qu'on peut avoir du mal à se satisfaire de Jésus-Christ. En tout cas, on le fait rarement dans nos vies. Mais lui, dans nos vies où nous avons faim et soif, il continue de s'adresser à nous. Et j'aimerais vous laisser ces quelques mots comme un appel. Jésus continue à s'adresser à nous dans nos vies et dit « Je t'ai délivré de la mort et du péché. Fais-moi confiance. Je suis le pain qui donne la vie jour après jour. » Et je vous invite à prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, je veux m'adresser à toi en te confessant que je ne te fais certainement pas assez confiance. Et Seigneur, aide-moi à te faire confiance jour après jour. Seigneur, Jésus-Christ nous a appris à prier et à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Seigneur, c'est ma prière, que chaque jour, mon désir soit Jésus-Christ. Mon désir, c'est de me tourner vers le pain de vie, celui qui donne la vie, qui nous offre un avenir éternel, de me satisfaire de ce cadeau merveilleux. Et Seigneur, encore une fois, encore une fois reprendre le de notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation de vouloir retourner à l'esclavage du péché et de la mort, à retourner à une vie d'avant, mais à avancer sur ce chemin avec toi. Toi le Dieu qui nous met en marche, toi le Dieu qui veut demeurer au milieu de nous et qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.